Élijah, numéro 1.
Le premier et le dernier.
La conclusion de l'Ancien Testament énonce une promesse. Le prophète Élie apparaîtra avec un message avant le grand et redoutable jour du Seigneur.
Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant la venue du grand et redoutable jour du Seigneur, et il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper la terre d'une malédiction. Malachie 4, 5, 6.
La Bible enseigne clairement que le grand et redoutable jour de l'Éternel, ou la malédiction dont Dieu frappe la terre, est également représentée symboliquement par les sept dernières plaies ou la colère de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Le chapitre 15 de l'Apocalypse introduit le cadre prophétique qui mène au déversement des sept dernières plaies, grandes et redoutables, du chapitre 16.
« Et je vis dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux, sept anges ayant les sept derniers fléaux, car en eux s'achève la colère de Dieu.
Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu,
et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête, sur son image, sur sa marque et sur le nombre de son nom, se tenaient sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, justes et véritables sont tes voies, toi, roi des saints. Qui ne te craindra, ô Seigneur, et ne glorifiera ton nom, car toi seul es saint, car toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. »
Et après cela, je regardais, et voici, le temple du tabernacle du témoignage dans le ciel fut ouvert. Et les sept anges sortirent du temple, ayant les sept fléaux, vêtus de lin pur et blanc, et ayant leur poitrine ceinte de ceinture d'or. Et l'une des quatre bêtes donna aux sept anges sept fioles d'or, pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée provenant de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. Apocalypse 15, 1, 8.
La raison pour laquelle nul ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept plaies des sept anges fussent accomplies, c'est que la possibilité d'obtenir le salut prend fin lorsque le temple est rempli de fumée au chapitre 15. Le temps de probation accordé à l'humanité pour se repentir et trouver le salut est alors révolu. Lorsque ce moment est atteint, le grand et redoutable jour du Seigneur, que Jean appelle les sept dernières plaies, voit ces plaies être déversées avant le second avènement du Christ. Malachie a qualifié ce jour de redoutable, et Ésaïe l'identifie comme l'acte étrange de Dieu.
Car l'Éternel se lèvera comme au mont Pératsim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, et accomplir son acte étrange. Maintenant donc, ne soyez pas moqueurs, de peur que vos liens ne se resserrent, car j'ai entendu, de la part du Seigneur, l'Éternel des armées, une destruction arrêtée contre toute la terre. Ésaïe 28, 21, 22.
Bien que l'acte étrange de Dieu s'étende à toute la terre, l'aspiration est claire. Le déversement des fléaux est associé à la rébellion d'une nation.
Les nations étrangères suivront l'exemple des États-Unis. Bien que les États-Unis ouvrent la voie, la même crise frappera notre peuple dans toutes les régions du monde. Témoignage, volume 6, 384. Lorsque l'Amérique, le pays de la liberté religieuse, s'unira à la papauté en forçant la conscience et en contraignant les hommes à honorer le faux sabbat, les peuples de tous les pays du globe seront amenés à suivre son exemple. Témoignage, volume 6, 18.
Chaque nation remplira la coupe de son temps de probation, mais les jugements de Dieu, que Sir White identifie comme la ruine nationale et qu'elle appelle aussi le temps des jugements destructeurs de Dieu, expression par laquelle elle désigne l'histoire qui commence avec la loi du dimanche aux États-Unis, ne sont pas les sept dernières plaies.
Un temps vient où la loi de Dieu doit, d'une manière particulière, être rendue sans effet dans notre pays. Les dirigeants de notre nation feront appliquer, par des mesures législatives, la loi du dimanche, et ainsi le peuple de Dieu sera exposé à un grand péril. Lorsque notre nation, dans ses conseils législatifs, promulguera des lois pour lier la conscience des hommes quant à leurs privilèges religieux, imposant l'observance du dimanche et exerçant un pouvoir oppressif contre ceux qui gardent le sabbat du septième jour, la loi de Dieu sera, à toute fin utile, rendue sans effet dans notre pays, et l'apostasie nationale sera suivie de la ruine nationale. Review and Herald, 18 décembre 1888.
Les jugements de Dieu que Sir White identifie comme une ruine nationale, commence avec la loi du dimanche national et marque le début de l'acte étrange de Dieu,
bien que l'acte étrange de Dieu corresponde plus précisément aux sept derniers fléaux. Un tableau plus complet de l'acte étrange de Dieu apparaît lorsque la délivrance d'Égypte est ajoutée à la ligne des jugements exécutifs de Dieu. Les plaies d'Égypte, bien qu'au nombre de 10, étaient divisées. Les trois premières se distinguaient des sept dernières. Ainsi, la délivrance d'Égypte identifie une période de temps représentée par les trois premières plaies, qui commence avec la ruine nationale des États-Unis et se poursuit jusqu'à ce que Michel se lève et que la probation humaine prenne fin.
Les jugements de Dieu seront infligés à ceux qui cherchent à opprimer et à détruire son peuple. Sa longue patience envers les méchants les enhardit dans la transgression, mais leur châtiment n'en est pas moins certain et terrible parce qu'il est longtemps différé. L'Éternel se lèvera comme à la montagne de Peratsim, il sera irrité comme dans la vallée de Gabaon, afin de faire son œuvre étrange, et d'accomplir son acte étrange. Ésaïe 28-21. Pour notre Dieu miséricordieux, l'acte du châtiment est un acte étrange. « Je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. » Ézéchiel 33-11. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et abondant en bonté et en vérité, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché. Toutefois, il ne tient point le coupable pour innocent. L'Éternel est lent à la colère et grand par sa puissance, et il n'acquitte nullement le méchant. Exode 34:6, 7, Nahum 1:3. Par des choses terribles dans la justice, il rétablira l'autorité de sa loi foulée aux pieds. La sévérité de la rétribution qui attend le transgresseur se mesure à la réticence du Seigneur à exercer la justice. La nation envers laquelle il use d'une longue patience et qu'il ne frappera pas avant qu'elle ait comblé la mesure de son iniquité aux yeux de Dieu, boira finalement la coupe de la colère sans mélange de miséricorde.
Lorsque le Christ cessera son intercession dans le sanctuaire, la colère sans mélange, menacée contre ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent sa marque, Apocalypse 14:9, 10, sera répandue. Les plaies qui frappèrent l'Égypte lorsque Dieu était sur le point de délivrer Israël étaient de même nature que ces jugements plus terribles et plus étendus qui doivent s'abattre sur le monde juste avant la délivrance finale du peuple de Dieu. Le Révélateur, décrivant ces terribles fléaux, dit « Il tomba un ulcère malin et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. La mer devint comme le sang d'un mort et toute âme vivante mourut dans la mer. Et les fleuves et les sources des eaux devinrent du sang. » Aussi terribles que soient ces châtiments, la justice de Dieu est pleinement justifiée. L'ange de Dieu déclare « Tu es juste, Seigneur, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. » Apocalypse 16:2-6. En condamnant à mort le peuple de Dieu, ils se sont aussi véritablement rendus coupables de son sang que s'ils l'avaient répandu de leurs propres mains. De même, le Christ déclara les Juifs de son temps coupables de tout le sang des hommes saints versé depuis les jours d'Abel, car ils possédaient le même esprit et cherchaient à accomplir la même œuvre que ces meurtriers des prophètes. Dans la plaie qui suit, il fut donné au soleil le pouvoir de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Versets 8 et 9. Les prophètes décrivent ainsi l'état de la terre à cette époque terrible. Le pays est en deuil, parce que la moisson des champs est perdue. Tous les arbres des champs sont desséchés, car la joie s'est flétrie parmi les fils des hommes. La semence est pourrie sous leurs mottes, les greniers sont dévastés. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés, parce qu'ils n'ont point de pâturage. Les rivières sont à sec, et le feu a dévoré les pâturages du désert. Les chants du temple seront des hurlements en ce jour-là, dit le Seigneur Dieu. Il y aura en tout lieu beaucoup de cadavres, on les jettera dehors en silence. Joël 1, 10, 12, 17, 20. Amos 8:3. Ces fléaux ne sont pas universels, sinon les habitants de la terre seraient entièrement anéantis. Pourtant, ils seront les plus terribles fléaux que les mortels aient jamais connus. Tous les jugements prononcés contre les hommes avant la clôture du temps de grâce ont été mêlés de miséricorde. Le sang du Christ, qui intercède, a préservé le pécheur d'encourir toute la mesure du châtiment que mérite sa culpabilité, mais au jugement final, la colère est déversée sans aucun mélange de miséricorde. En ce jour-là, des multitudes désireront le refuge de la miséricorde de Dieu qu'elles ont si longtemps méprisée. « Voici, des jours viennent, dit le Seigneur Dieu, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une faim de pain, ni une soif d'eau, mais la faim d'entendre les paroles du Seigneur. Et ils erreront d'une mer à l'autre, et du nord jusqu'à l'Orient, ils iront çà et là pour chercher la parole du Seigneur, et ils ne la trouveront pas. » Amos 8:11, 12. La grande controverse 627-629.
Dans le passage précédent, il était dit «
la nation à l'égard de laquelle il use d'une longue patience et qu'il ne frappera pas avant qu'elle n'ait comblé aux yeux de Dieu la mesure de son iniquité, boira finalement la coupe de la colère sans mélange de miséricorde. Elle a également écrit dans le même paragraphe « Les fléaux qui frappèrent l'Égypte lorsque Dieu s'apprêtait à délivrer Israël étaient de même nature que ces jugements plus terribles et plus étendus qui doivent s'abattre sur le monde juste avant la délivrance finale du peuple de Dieu. La nation, les États-Unis, qui remplit la mesure de l'iniquité, subira des fléaux semblables aux 10 plaies d'Égypte. »
Les plaies d'Égypte furent divisées en 2 périodes. Les 3 premières plaies s'abattirent sur tous. Mais les 7 dernières plaies ne s'abattirent que sur les Égyptiens.
Et en ce jour-là, je mettrai à part le pays de Goshen, où demeure mon peuple, afin qu'il n'y ait pas là d'essaim de mouches, afin que tu saches que je suis le Seigneur au milieu de la terre. Exode 8, 22.
Les 3 premières plaies en Égypte sont tombées partout, mais Goshen, où vivaient les Hébreux, n'a pas reçu les 7 dernières plaies d'Égypte. Les États-Unis sont la nation qui remplit la coupe de son iniquité au moment de la loi du dimanche. À ce moment-là, l'apostasie nationale est suivie de la ruine nationale, mais les jugements qui produisent la ruine nationale sont mêlés de miséricorde jusqu'à ce que Michel se lève et que le temps de grâce prenne fin pour toute l'humanité. Au moment de la loi du dimanche aux États-Unis, la majorité de ceux qui professent actuellement être observateurs du sabbat se soumettront aux autorités en place et accepteront la marque de la bête. À ce moment-là, la question de la loi du dimanche devient une épreuve spirituelle pour ceux qui étaient en dehors de l'adventisme. Depuis la loi du dimanche aux États-Unis jusqu'à ce que Michel se lève, c'est le grand rassemblement des ouvriers de la 11e heure. Mais la porte s'est déjà fermée pour ceux qui, avant la loi du dimanche, sont tenus pour responsables de la lumière du sabbat du 7e jour.
De plus en plus, au fil des jours, il devient évident que les jugements de Dieu se font sentir dans le monde. Par le feu, les inondations et les tremblements de terre, il avertit les habitants de cette terre de son approche imminente. Le moment approche où la grande crise de l'histoire du monde sera arrivée, où chaque mouvement dans le gouvernement de Dieu sera suivi avec un vif intérêt et une appréhension indicible. En rapide succession, les jugements de Dieu se succéderont, feu, inondations et tremblements de terre, avec la guerre et l'effusion de sang. Oh, si seulement le peuple connaissait le temps de sa visitation! Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore entendu la vérité éprouvante de ce temps. Il y en a beaucoup avec qui l'Esprit de Dieu lutte. Le temps des jugements destructeurs de Dieu est le temps de la miséricorde pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre ce qu'est la vérité. Le Seigneur les regardera avec tendresse. Son cœur de miséricorde est touché. Sa main est encore étendue pour sauver, tandis que la porte est fermée à ceux qui n'ont pas voulu entrer.
La miséricorde de Dieu se manifeste dans sa longanimité. Il retient ses jugements, attendant que le message d'avertissement soit proclamé à tous. Oh, si notre peuple ressentait comme il le devrait la responsabilité qui repose sur lui de donner au monde le dernier message de miséricorde, quelle œuvre merveilleuse serait accomplie. Témoignage, volume 9, 97.
Dans le passage précédent, elle a indiqué que « le temps des jugements destructeurs de Dieu est le temps de la miséricorde pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre ce qu'est la vérité ». Dans le passage suivant, elle désigne cette période comme « le temps de détresse ».
Je vis que le Saint Sabbat est et sera le mur de séparation entre le véritable Israël de Dieu et les incrédules, et que le sabbat est la grande question pour unir les cœurs des chers saints de Dieu qui attendent. Et si quelqu'un croyait, gardait le sabbat, recevait la bénédiction qui l'accompagne, puis l'abandonnait et transgressait le Saint Commandement, il se fermerait les portes de la Sainte Cité contre lui-même, aussi sûrement qu'il y a un Dieu qui règne dans les cieux d'en haut. Je vis que Dieu avait des enfants qui ne voient pas et ne gardent pas le sabbat. Ils n'avaient pas rejeté la lumière à ce sujet. Et au commencement du temps de détresse, nous fûmes remplis du Saint-Esprit alors que nous sortions et proclamions le sabbat plus pleinement. Cela mit en fureur l'Église et les adventistes de nom, car ils ne pouvaient pas réfuter la vérité du sabbat. Et à ce moment-là, les élus de Dieu virent tous clairement que nous avions la vérité, et ils sortirent et endurèrent la persécution avec nous. Une parole au petit troupeau, 18-19.
Bien que légèrement modifié, le même passage qui vient d'être cité se trouve dans le livre Early Writings. Dans ce livre, elle commente sa déclaration concernant le temps de détresse. A Word to the Little Flock fut la première publication des fidèles Millerites déçus après la grande déception du 22 octobre 1844 et, des décennies plus tard, lorsque des éditeurs ont utilisé des extraits de cette brochure pour les inclure dans le livre Early Writings, ils ont précisé que le temps de détresse auquel il était fait référence ne désignait pas les 7 dernières plaies,
car lorsque les sept dernières plaies sont déversées, il n'y a aucune miséricorde mêlée au jugement.
1. À la page 33, on trouve ce qui suit. J'ai vu que le Saint Sabbat est et sera le mur de séparation entre le véritable Israël de Dieu et les incroyants, et que le sabbat est la grande question destinée à unir les cœurs des chers saints de Dieu qui attendent. J'ai vu que Dieu avait des enfants qui ne voient pas et n'observent pas le sabbat. Ils n'ont pas rejeté la lumière à ce sujet. Et au commencement du temps de détresse, nous avons été remplis du Saint-Esprit alors que nous allions proclamer le sabbat plus pleinement. Cette vision fut donnée en 1847, alors qu'il n'y avait que très peu de frères adventistes observant le sabbat, et parmi ceux-ci, bien peu estimaient que son observance fût d'une importance suffisante pour tracer une ligne de démarcation entre le peuple de Dieu et les incroyants. Maintenant, l'accomplissement de cette vision commence à se manifester. Le commencement de ce temps de détresse, mentionné ici, ne se rapporte pas au moment où les plaies commenceront à être déversées, mais à une courte période juste avant qu'elles ne le soient, tandis que Christ est dans le sanctuaire. À ce moment-là, tandis que l'œuvre du salut s'achève, des troubles viendront sur la terre et les nations seront en colère, mais tenues en échec de manière à ne pas empêcher l'œuvre du troisième ange. À ce moment-là, la pluie de l'arrière-saison, ou rafraîchissement venant de la présence du Seigneur, viendra pour donner de la puissance à la forte voix du troisième ange et préparer les saints à tenir ferme pendant la période où les sept dernières plaies seront déversées. Early Writings, 85.
Lors de l'instauration de la loi dominicale aux États-Unis, l'apostasie nationale sera suivie d'une ruine nationale. À ce moment-là, l'adventisme aux États-Unis sera divisé en deux classes. Les uns recevront la marque de la bête, les autres le sceau de Dieu. La ruine nationale des États-Unis est représentée par les trois premières plaies d'Égypte. Ces jugements se poursuivent jusqu'à la fin de la probation humaine, puis les sept dernières plaies, sans mélange de miséricorde, sont répandues.
Mon propos porte moins sur l'histoire prophétique de l'Égypte que sur le fait qu'Ellen White identifie l'Égypte comme le symbole de la nation qui contraint le monde entier à recevoir la marque de la bête. Car, ce faisant, elle utilise le commencement pour illustrer la fin, ce qui est la signature prophétique de Jésus en tant que l'alpha et l'oméga.
Dans le récit de l'Exode, lorsque le Seigneur entre en alliance avec l'ancien Israël, il se révèle sous un nouveau nom.
Alors le Seigneur dit à Moïse, « Maintenant, tu verras ce que je ferai à Pharaon, car d'une main puissante, il les laissera partir, et d'une main puissante, il les chassera de son pays. »
Dieu parla à Moïse et lui dit,
« Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, sous le nom de Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, Jéhovah. »
Et j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur séjour, où ils étaient étrangers. Et j'ai aussi entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent en servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, et je vous ferai sortir de dessous les fardeaux des Égyptiens, et je vous délivrerai de leur servitude, et je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements. Et je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous fait sortir de dessous les fardeaux des Égyptiens. Et je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai pour héritage. Je suis l'Éternel. » Et Moïse parla ainsi aux enfants d'Israël. Mais ils n'écoutèrent pas Moïse, à cause de l'abattement de leur esprit et de la cruelle servitude. Exode 6, 1-9.
Le Seigneur identifie ici Moïse comme le représentant de son alliance, comme l'étaient Jacob, Isaac et Abraham. Jusqu'à l'époque de Moïse, le nom Jéhovah était inconnu d'Abraham et de ses descendants, et dans le récit du renouvellement de l'alliance d'Abraham, au moment où les Hébreux allaient être délivrés de la servitude égyptienne, le Seigneur introduit une nouvelle révélation de son caractère, car un nom représente prophétiquement le caractère. Quand Abraham entra en alliance avec le Seigneur changea son nom en Abraham. Au début de la prophétie concernant la servitude égyptienne, le représentant humain de l'alliance vit son nom changer. Et à la fin de cette prophétie, Dieu introduisit un nouveau nom pour lui-même.
Au chapitre 15, Abraham conclut une alliance et y fut énoncée la prophétie d'une servitude égyptienne de 400 ans. Au chapitre 17, Abraham reçut le rite de la circoncision et son nom, ainsi que celui de Sarah, furent changés.
400 ans plus tard, Moïse fut suscité pour accomplir la prophétie de 400 ans d'Abraham. Abraham, Isaac, Jacob et Moïse représentent tous les 144 000 qui concluent une alliance avec le Seigneur dans les derniers jours.
Dans les derniers jours de l'histoire de cette terre, l'alliance de Dieu avec son peuple qui garde ses commandements doit être renouvelée.
Review and Herald, 26 février 1914.
La séparation entre ceux qui observent le sabbat et acceptent la marque de la bête et ceux qui observent le sabbat et reçoivent le sceau de Dieu s'opère au moment de la loi du dimanche. Cette séparation est représentée dans la parabole des 10 vierges.
La parabole des 10 vierges de Matthieu 25 illustre également l'expérience du peuple adventiste. La grande controverse, 339. On me renvoie souvent à la parabole des 10 vierges, dont 5 étaient sages et 5 insensées. Cette parabole s'est accomplie et s'accomplira à la lettre, car elle a une application particulière pour ce temps et comme le message du troisième ange, elle s'est accomplie et continuera d'être une vérité présente jusqu'à la fin des temps. Review and Herald, 19 août 1890.
La parabole s'est accomplie le 22 octobre 1844, lorsque les vierges sages et folles de l'histoire millérite furent séparées. Le début de l'adventisme représente la fin de l'adventisme et la séparation à la fin est un accomplissement de la parabole des 10 vierges et cette séparation à la fin est provoquée par la loi du dimanche.
Encore une fois, ces paraboles enseignent qu'il n'y aura pas de temps de probation après le jugement. Lorsque l'œuvre de l'Évangile est achevée, la séparation entre les bons et les méchants suit immédiatement et le destin de chaque classe est fixé pour toujours. Christ's Object Lessons, 123.
La parabole des 10 vierges montre que ce sont les vierges sages de l'adventisme qui reçoivent le sceau de Dieu et les vierges folles de l'adventisme qui reçoivent la marque de la bête lors de la loi du dimanche aux États-Unis. Les vierges folles sont aussi représentées comme des laodicéennes.
L'état de l'Église, représenté par les vierges folles, est aussi appelé l'état laodicéen. Review and Herald, 19 août 1890.
Dans les derniers jours, quand Dieu renouvellera son alliance avec son peuple qui observe ses commandements, il révélera un nouveau nom pour se désigner, comme il l'a fait lorsqu'il a renouvelé l'alliance au temps de Moïse. La condition des vierges folles est qu'elles n'ont pas d'huile, et la condition des laodicéens est qu'ils sont trop aveugles pour voir qu'ils n'ont pas d'huile. Il est évident que si les vierges folles sont des laodicéens, alors les vierges sages sont des philadelphiens.
Et à l'ange de l'Église qui est à Philadelphie, écrit
« Voici ce que dit celui qui est saint, celui qui est véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne ferme, qui ferme et que personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, et personne ne peut la fermer, car tu as peu de force, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom.
Voici. » Je ferai venir ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et ils sauront que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre.
Voici, je viens bientôt.
Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, 7, 13.
Les Philadelphiens représentent les 144 000, et il leur est promis que Dieu inscrira sur eux son nom nouveau. Quand le Seigneur conclura une alliance avec les 144 000, il introduira pour lui-même un nom nouveau. Le Seigneur dit à Abraham qu'il était le Dieu Tout-Puissant.
Lorsqu'Abraham était âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois irréprochable. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai très abondamment. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla, disant « Pour moi, voici, mon alliance est avec toi et tu seras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. » Mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations. Genèse 17, 1-5.
Lorsque le Seigneur a conclu pour la première fois une alliance avec un peuple choisi du temps d'Abraham, il s'est fait connaître comme le Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'il a approfondi cette relation d'alliance du temps de Moïse, il s'est fait connaître pour la première fois sous le nom de Jéhovah. Quand Jésus est venu confirmer l'alliance avec plusieurs pour une semaine, il a introduit un nouveau nom de Dieu qui n'avait été exprimé qu'une seule fois dans l'Ancien Testament, et cela par un Babylonien.
Alors le roi Nabuchodonosor fut stupéfait et se leva en hâte et prit la parole et dit à ses conseillers « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent et dirent au roi « C'est vrai, au roi. » Ils répondirent et dit « Voici, je vois quatre hommes déliés, qui marchent au milieu du feu, et il ne leur est fait aucun mal,
et l'aspect du quatrième est semblable à celui du Fils de Dieu. Daniel 3, 24, 25.
Il est très facile d'établir que le chapitre 3 de Daniel identifie la loi du dimanche aux États-Unis. Dans Daniel 3, Shadrach, Meshach et Abednego représentent les 144 000. Les 144 000 sont ceux qui renouvellent l'Alliance pour la dernière fois. Dans Daniel 3, nous voyons une illustration prophétique de la loi du dimanche et de l'histoire de la pluie de l'arrière-saison. Le Christ était et sera dans les feux de la persécution avec ses trois fidèles, représentant non seulement les 144 000, mais aussi les messages des trois anges. Dans le feu, qui typifie la prise de la loi du dimanche, il est identifié sous l'un de ses noms, et c'est un nom qui n'a été introduit dans l'histoire qu'à la venue du Christ en tant que Fils de Dieu. Dans l'illustration du chapitre 3, nous voyons ceux qui renouvellent l'Alliance à la fin du monde interagir avec le Christ pendant la crise finale, et ils portent un nom que personne ne connaissait.
Avant que je ne m'éloigne trop de notre examen de la délivrance d'Égypte, qui représente la loi du dimanche aux États-Unis, nous devrions nous rappeler qu'avant le début de la première des 10 plaies en Égypte, il y eut une véritable agitation au sujet du sabbat.
Et Pharaon dit « Voici, le peuple du pays est maintenant nombreux, et vous les faites se reposer de leur fardeau. » Et, ce même jour, Pharaon donna cet ordre aux contremaîtres du peuple et à leurs officiers disant « Vous ne donnerez plus de paille au peuple pour faire des briques, comme auparavant, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. » Et vous leur imposerez le quota de briques qu'ils faisaient jusqu'ici. N'en retranchez rien, car ils sont oisifs. C'est pourquoi ils crient, disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Qu'on impose davantage de travail à ces hommes, qu'ils s'y appliquent, et qu'ils ne prêtent pas attention à de vaines paroles. Les contremaîtres du peuple sortirent donc, et leurs officiers, et ils parlèrent au peuple, disant « Ainsi parle Pharaon, je ne vous donnerai pas de paille. Allez, procurez-vous de la paille où vous pourrez en trouver. Toutefois, rien ne sera retranché de votre travail. » Alors le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Et les contremaîtres les pressaient, disant « Accomplissez vos ouvrages, vos tâches quotidiennes, comme lorsqu'il y avait de la paille. » Et les officiers des enfants d'Israël, que les contremaîtres de Pharaon avaient établis sur eux, furent battus, et on leur disait « Pourquoi n'avez-vous pas achevé votre tâche de faire des briques hier et aujourd'hui, comme auparavant ?» Alors les officiers des enfants d'Israël vinrent et crièrent à Pharaon, disant « Pourquoi agis-tu ainsi envers tes serviteurs ? On ne donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit « Faites des briques, et voici, tes serviteurs sont battus, mais la faute est à ton peuple. » Mais il dit « Vous êtes oisifs, oui, oisifs, c'est pourquoi vous dites « Allons, et sacrifions à l'Éternel. Allez donc maintenant, et travaillez, car on ne vous donnera point de paille, et pourtant vous fournirez le quota de briques. » Et les officiers des enfants d'Israël virent qu'ils étaient en mauvaise posture après qu'on eût dit « Vous ne retrancherez rien du nombre de vos briques de votre tâche quotidienne. » Exode 5, 5, 19.
Avant la loi du dimanche, il y aura une agitation croissante contre ceux qui observent le sabbat du septième jour, comme cela s'est produit à l'approche des plaies d'Égypte. Moïse était désigné, tant par les Égyptiens que par les Hébreux, comme celui qui causait tous les problèmes, tout comme Achab accusa Élie.
Et il arriva, lorsqu'Achab vit Élie, qu'Achab lui dit « Es-tu celui qui trouble Israël ?» Il répondit « Ce n'est pas moi qui ai troublé Israël, mais toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi les Baals. » 1 Rois 18, 17, 18.
L'histoire de Moïse illustre l'histoire de la loi du dimanche, et l'histoire d'Élie illustre l'histoire de la loi du dimanche. Ensemble ou séparément, Moïse et Élie sont des symboles. Lors de la transfiguration du Christ, ils représentaient ensemble les 144 000 qui ne meurent pas et ceux qui meurent dans le Seigneur. Moïse a été ressuscité, Élie n'est jamais mort. Ce sont aussi les deux prophètes qui tourmentent le peuple dans le chapitre 11 de l'Apocalypse. Une grande part de vérité est représentée par Moïse et Élie en tant que symboles, et nous espérons aborder cela plus tard.
Voici, je vous enverrai
Élie le prophète avant la venue du grand et redoutable jour du Seigneur. Et il ramènera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper la terre d'une malédiction. Malachie 4, 5, 6.
Juste avant que la probation humaine ne prenne fin, Élie le prophète doit apparaître avec un message spécial qui ramène le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Tous les prophètes témoignent de la fin du monde et ils sont unanimes.
Et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes.
Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints.
1 Corinthiens 14, 32-33.
Le message d'Élie arrive juste avant le grand et redoutable jour du Seigneur.
Par conséquent, c'est exactement le même message spécial que celui du livre de l'Apocalypse, qui est présenté comme la révélation de Jésus-Christ. Lorsque le temps est proche, le message spécial d'Élie montre aux serviteurs de Dieu les choses qui doivent arriver bientôt.
La révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.
Il l'a fait connaître en l'envoyant par son ange à son serviteur Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus-Christ et de tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent ce qui y est écrit, car le temps est proche. Apocalypse 1, 1-3.
Remarquez que, lorsque Malachie emploie Élie comme symbole, il inclut une référence directe à l'observance des commandements.
« Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur,
que je lui ai commandée à Horeb pour tout Israël, avec les statuts et les jugements. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant la venue du grand et redoutable jour du Seigneur. Et il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper la terre d'une malédiction. » Malachie 4, 4-6.
Ces trois versets sont les derniers de l'Ancien Testament et contiennent la promesse finale de l'Ancien Testament, tout en mettant l'accent sur l'observance des 10 commandements. Il y a 7 bénédictions dans le livre de l'Apocalypse, et la dernière est une bénédiction pour ceux qui observent les 10 commandements.
Je suis l'alpha et l'oméga,
le commencement et la fin, le premier et le dernier. Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Apocalypse 22, 13, 14.
La dernière promesse de l'Ancien Testament nous dit de « nous souvenir des 10 commandements », mais ce faisant, elle met l'accent sur le seul commandement qui inclut l'ordre de « se souvenir ».
Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier.
6 jours tu travailleras et tu feras tout ton travail, mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur, ton Dieu. En ce jour, tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours le Seigneur a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'il renferme, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Exode 20, 8, 11.
La dernière promesse, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, met l'accent sur les commandements de Dieu, avec un accent particulier sur le sabbat du 7e jour. Malachie dit de se souvenir, et Jean nous apprend que ceux qui le font sont bénis.
Le sabbat du 7e jour commémore la création de Dieu et sa puissance créatrice. Le sabbat devient également le point de controverse dans les derniers jours de l'histoire de la terre. Lorsque Jean consigne la bénédiction sur ceux qui pratiquent ses commandements, il ne fait que rapporter ce que Jésus, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, a proclamé. Par conséquent, la dernière promesse du Nouveau Testament a trait au sabbat du 7e jour, ainsi qu'à l'attribut divin qui identifie la fin par le commencement.
La première vérité mentionnée dans la Genèse, qui signifie « origine », identifie le Créateur et la création et met un accent particulier sur le sabbat.
Pris ensemble, ligne après ligne, le début de l'Ancien Testament et la fin des deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, mettent l'accent sur Dieu en tant que Créateur, sur les 10 commandements, sur le commandement du sabbat et sur le fait que Jésus est le commencement et la fin.
Le prophète Élie est employé par Malachie comme symbole dans la dernière promesse de l'Ancien Testament, et c'est lui le prophète qui affronta Jézabel et Akab.
Le livre de l'Apocalypse utilise Jézabel comme symbole de la papauté et 10 rois comme symbole des Nations Unies. L'affrontement d'Élie avec Akab et Jézabel représente l'affrontement des 144 000 avec les Nations Unies, investis de pouvoir par les États-Unis et dirigés par la papauté. En tant que roi des 10 tribus du nord d'Israël, Akab représentait le pouvoir régnant sur 10 tribus, préfigurant ainsi les États-Unis, Akab conférant le pouvoir aux Nations Unies, 10 tribus ou 10 rois dans Apocalypse 17, pour mener la persécution de ceux qui observent le sabbat pour la papauté, Jézabel. Lorsque Malachie utilise Élie pour représenter un message qui vient avant le grand et redoutable jour du Seigneur, Élie représente ceux qui sont persécutés par la Rome moderne, le dragon, la bête et le faux prophète, comme il fut persécuté par Jézabel pendant 3 ans et demi. Mettre l'accent sur le sabbat en employant le mot « souvenez-vous » dans Malachie 4.4 ajoute la crise de la loi du dimanche au scénario prophétique illustré par Malachie.
Il faudrait ajouter bien davantage à la réflexion sur les vérités mises en lumière en comparant le début de l'Ancien Testament avec la fin de l'Ancien Testament.
puis en comparant le début de la Bible avec la fin de la Bible. Dans la Genèse, nous avons le Créateur, la création et le sabbat qui commémore la création. Dans Malachie, le commandement du sabbat est identifié comme l'enjeu critique qui conduit à la fin de la période d'épreuve de l'humanité et aux sept dernières plaies, ou comme l'appelle Malachie, le grand et redoutable jour du Seigneur. Élie représente le peuple de Dieu qui présente le message du troisième ange à un monde mourant.
Aujourd'hui, dans l'esprit et la puissance d'Élie et de Jean-Baptiste, des messagers désignés par Dieu attirent l'attention d'un monde voué au jugement sur les événements solennels qui doivent bientôt se produire en lien avec les heures de clôture du temps de probation et l'apparition du Christ Jésus comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Prophètes et rois, 7:14, 7:16.
Le début de la Bible, qui est aussi celui de l'Ancien Testament, présente la même histoire que celle que l'on trouve à la fin des deux testaments. Mais le commencement comme la fin mettent en avant leur propre vérité et contribuent au message. Dans la Genèse, l'accent est mis sur les actions de Dieu. Dans Malachie, l'accent est mis sur le message qui avertit de la crise à venir. La fin de l'Apocalypse identifie l'alpha et l'oméga. Dans le premier livre du Nouveau Testament, nous lisons ce qui suit.
Le livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, et Isaac engendra Jacob. Et Jacob engendra Judas et ses frères. Et Judas engendra Phares et Zara de Tamar. Et Phares engendra Esrom. Et Esrom engendra Aram. Et Aram engendra Aminadab. Et Aminadab engendra Naasson. Et Naasson engendra Salmon. Et Salmon engendra Bouz de Rachab. Et Bouz engendra Obed de Ruth. Et Obed engendra Jessé. Et Jessé engendra David le roi. Et David le roi engendra Salomon de celle qui avait été la femme d'Uri. Et Salomon engendra Roboam. Et Roboam engendra Abia. Et Abia engendra Asa. Et Asa engendra Josaphat. Et Josaphat engendra Joram. Et Joram engendra Ozias. Et Ozias engendra Joatam. Et Joatam engendra Akaz. Et Akaz engendra Ézéchias. Et Ézéchias engendra Manassé. Et Manassé engendra Amon. Et Amon engendra Josias, et Josias engendra Jéconias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone. Et après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salathiel, et Salathiel engendra Zorobabel, et Zorobabel engendra Abiud, et Abiud engendra Éliakim, et Éliakim engendra Azor, et Azor engendra Sadoc, et Sadoc engendra Hachim, et Hachim engendra Éliud, et Éliud engendra Éléazar. Et Éléazar engendra Matan, et Matan engendra Jacob. Et Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, appelé Christ. Ainsi, depuis Abraham jusqu'à David, il y a 14 générations. Et depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, il y a 14 générations. Et depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ, il y a 14 générations. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva de cette manière. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, avant qu'ils eussent habité ensemble, se trouva enceinte par le Saint-Esprit. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas l'exposer à l'infamie, résolut de la répudier secrètement. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit.
Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus,
car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, disant « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Et il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils premier-né, et il lui donna le nom de Jésus. Matthieu 1:1-25.
Le début du Nouveau Testament s'accorde avec le début et la fin de l'Ancien Testament, ainsi qu'avec la fin du Nouveau Testament, car il met l'accent sur la puissance créatrice de Dieu. La puissance que le Christ a employée pour créer toute chose en 6 jours est la même que celle qu'il emploie pour sauver son peuple de ses péchés. Le mot « Emmanuel », comme le passage le rapporte d'après les écrits d'Ésaïe, signifie « Dieu avec nous ». Il demeure au sein de son peuple en unissant sa divinité à notre humanité, et c'est précisément cette union qu'il a accomplie lorsqu'il s'est incarné en Marie.
Rien de moins qu'une obéissance parfaite n'est à la hauteur de l'exigence de Dieu. Il n'a pas laissé ses exigences indéfinies. Il n'a rien prescrit qui ne soit nécessaire pour amener l'homme en harmonie avec lui.
Nous devons montrer au pécheur son idéal de caractère et les conduire au Christ par la seule grâce duquel cet idéal peut être atteint.
Le Sauveur a pris sur lui-même les infirmités de l'humanité et a vécu une vie sans péché, afin que les hommes n'aient pas peur, à cause de la faiblesse de la nature humaine, de ne pouvoir vaincre. Le Christ est venu faire de nous des participants de la nature divine, et sa vie déclare que l'humanité, unie à la divinité, ne commet pas de péché. Le ministère de la guérison, 180.
Le début du Nouveau Testament indique où, quand et pourquoi Jésus a assumé notre nature humaine. Il l'a fait pour démontrer que la puissance humaine, combinée à la puissance divine, ne pèche pas. Le péché est la transgression de la loi, dont Malachie dit que nous devons nous souvenir. Jean nous apprend que ceux qui gardent la loi, et donc ceux qui ne pèchent pas, peuvent entrer par les portes célestes. Matthieu montre qu'un pécheur peut vaincre le péché, tout comme le Christ a vaincu. Lorsque nous avons le Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous avons en nous la puissance créatrice qui a créé l'univers. Cette possibilité a été offerte par le choix du Christ d'entrer dans la famille humaine et, pour le reste de l'éternité, de devenir non seulement le Fils de Dieu, mais aussi le Fils de l'homme.
Il y a un message spécial de vérité révélé au peuple de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, juste avant la fin du temps de probation humaine. Ce message spécial est aussi le message d'Élie de Malachie, proclamé juste avant le jour redoutable du Seigneur.
Au début des Deux Testaments, ainsi qu'à la fin du Nouveau Testament, des attributs précis de Dieu sont identifiés. Dans la Genèse, il est le Créateur, et à la fin de l'Apocalypse, il est l'Alpha et l'Oméga. Au début du Nouveau Testament, il devient le Fils de l'homme, et à la fin de l'Ancien Testament, nous trouvons le principe dont le messager Élie se sert pour accomplir le message qu'il proclamerait, à savoir tourner les cœurs des pères vers les enfants et vice-versa.
Le principe prophétique qu'Élie applique pour présenter son message d'avertissement est précisément ce que Jean a reçu l'ordre de faire dans l'Apocalypse. Élie ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Et il a été dit à Jean d'écrire les choses qui étaient alors et, ce faisant, il écrirait en même temps les choses qui allaient venir. Jean a servi à illustrer comment le principe de l'alpha et de l'oméga opère dans la parole prophétique. Et Élie fondera son message sur le même principe. Quand nous comparons le début de la Bible avec la fin de la Bible, nous comparons l'ancien avec le nouveau. Un père est le commencement de son enfant, et l'enfant est la fin du père. Les 144 000 sont la dernière génération des enfants d'Abraham, et l'histoire où Dieu est entré en alliance avec Abraham préfigure l'histoire où Dieu renouvelle cette alliance avec les 144 000.
C'est pourquoi c'est par la foi. Afin que ce soit par la grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, qui est le père de nous tous. Romains 4:16.
Le message d'Élie représente le principe de l'alpha et de l'oméga, car les pères sont l'alpha et les enfants l'oméga. Le message d'Élie tournerait les cœurs des pères vers les enfants. Le Christ a identifié Jean-Baptiste comme Élie, et Ellen White a identifié William Miller comme étant à la fois Élie et Jean-Baptiste. Le message de tous ces hommes représentatifs était présenté comme tournant les cœurs des pères vers les enfants et réciproquement. Cette œuvre représente l'effet du message qui tourne les cœurs des hommes vers leur Père céleste, mais elle signifie davantage, car elle est un symbole de l'œuvre. Dans la prophétie biblique, les symboles ont plusieurs significations et doivent être identifiés par le contexte.
Qu'est-ce qui a rendu Jean-Baptiste grand ? Il ferma son esprit à la masse de traditions présentées par les maîtres de la nation juive et l'ouvrit à la sagesse qui vient d'en haut. Avant sa naissance, le Saint-Esprit rendit témoignage au sujet de Jean. Il sera grand aux yeux du Seigneur, et il ne boira ni vin ni boisson enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit. Et il ramènera beaucoup des enfants d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Et il ira devant lui avec l'Esprit et la puissance d'Élie, afin de tourner le cœur des pères vers les enfants et les désobéissants vers la sagesse des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Luc 1, 15-17. Conseil aux parents, aux enseignants et aux étudiants, 445.
Le message est conçu afin que ceux qui choisissent d'écouter tournent leur cœur vers le Père céleste. Toutefois, le principe prophétique principal qui sera utilisé pour transmettre le message d'avertissement sera que le Christ est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le message d'Élie est fondé sur la présentation de la parole prophétique de Dieu, dans la perspective selon laquelle Jésus-Christ est la parole de Dieu, et que les règles qui régissent la Bible sont aussi des attributs de son caractère.
La loi de Dieu est aussi sacrée que Dieu lui-même. Elle est une révélation de sa volonté, le reflet de son caractère, l'expression de l'amour et de la sagesse divin. L'harmonie de la création dépend de la parfaite conformité de tous les êtres, de tout, animé et inanimé, à la loi du Créateur.
Dieu a établi des lois pour régir non seulement les êtres vivants, mais toutes les opérations de la nature. Tout est soumis à des lois fixes auxquelles on ne peut déroger. Mais tandis que tout dans la nature est régi par des lois naturelles, l'homme seul, de tout ce qui peuple la terre, est justiciable de la loi morale. À l'homme, l'œuvre couronnante de la création, Dieu a donné le pouvoir de comprendre ses exigences, de saisir la justice et la bienfaisance de sa loi, et les obligations sacrées qu'elle lui impose, et l'on exige de l'homme une obéissance inébranlable. Patriarche et prophète 53.
Tout, et cela inclut la Bible, car la Bible est quelque chose, et si elle est quelque chose, alors elle fait partie de tout, est soumise à des lois fixes. La Bible a des lois ou des règles fixes qui régissent sa juste interprétation. L'une de ces règles est que la Bible identifie la fin d'une chose au commencement d'une chose. Jésus est la parole de Dieu, et il est le premier et le dernier, et cela est une loi fixe et un attribut de son caractère.
Nous avons utilisé cette introduction d'Élie pour montrer que le début et la fin de l'Ancien et du Nouveau Testament s'accordent. La fin de la Bible, qui est aussi la fin du livre de l'Apocalypse, s'accorde également avec le début de l'Apocalypse. Cinq témoins des mêmes vérités, fondés sur le principe qui est un attribut du caractère de Dieu, selon lequel la parole de Dieu illustre toujours la fin d'une chose par le commencement de cette chose. Cette réalité fait partie de ce que signifie que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga.
À l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, furent dévoilées des scènes d'un intérêt profond et saisissant concernant l'expérience de l'Église. Des sujets d'un intérêt intense et d'une importance immense lui furent présentés sous des figures et des symboles afin que le peuple de Dieu soit éclairé sur les périls et les conflits qui étaient devant lui. L'histoire du monde chrétien jusqu'à la toute fin des temps fut révélée à Jean. Avec une grande clarté, il vit la position, les dangers, les conflits et la délivrance finale du peuple de Dieu. Il consigne le message final qui doit mûrir la moisson de la terre, soit en gerbe pour le grenier céleste, soit en fagot pour les feux du dernier jour. Dans une vision, Jean vit les épreuves que le peuple de Dieu aurait à endurer pour l'amour de la vérité. Il vit leur fermeté inébranlable dans l'obéissance aux commandements de Dieu, face aux puissances oppressives qui cherchaient à les contraindre à la désobéissance, et il vit leur triomphe final sur la bête et son image. Sous les symboles d'un grand dragon rouge, d'une bête semblable à un léopard et d'une bête aux cornes semblable à celle d'un agneau, les gouvernements terrestres qui s'emploieraient tout particulièrement à fouler aux pieds la loi de Dieu et à persécuter son peuple, furent présentés à Jean. La guerre se poursuit jusqu'à la fin des temps. Le peuple de Dieu, symbolisé par une femme sainte et ses enfants, était représenté comme très minoritaire. Dans les derniers jours, seul un reste subsistait encore. À leur sujet, Jean dit qu'ils gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Par le paganisme, puis par la papauté, Satan exerça pendant de nombreux siècles sa puissance pour tenter d'effacer de la terre les fidèles témoins de Dieu. Les païens et les papistes étaient animés du même esprit de dragon. Ils ne différaient qu'en ceci. La papauté, prétendant servir Dieu, était l'ennemi le plus dangereux et le plus cruel. Par l'intermédiaire du romanisme, Satan réduisit le monde en captivité. L'Église, qui se réclamait de Dieu, fut entraînée dans les rangs de cette séduction, et pendant plus de 1000 ans, le peuple de Dieu souffrit sous la colère du dragon. Et lorsque la papauté, privée de sa puissance, fut contrainte de cesser la persécution, Jean vit surgir une nouvelle puissance, venant faire écho à la voix du dragon et poursuivre la même œuvre cruelle et blasphématoire. Cette puissance, la dernière à faire la guerre contre l'Église et la loi de Dieu, était symbolisée par une bête aux cornes d'agneau. Les bêtes qui la précédaient étaient sorties de la mer, mais celle-ci s'éleva de la terre, représentant l'essor pacifique de la nation qu'elle symbolise. Les deux cornes semblables à celles d'un agneau représentent bien le caractère du gouvernement des États-Unis, tel qu'il s'exprime dans ses deux principes fondamentaux, le républicanisme et le protestantisme. Ces principes sont le secret de notre puissance et de notre prospérité en tant que nation. Ceux qui trouvèrent d'abord asile sur les rivages de l'Amérique se réjouirent d'avoir atteint un pays affranchi des prétentions arrogantes du papisme et de la tyrannie du pouvoir royal. Ils résolurent d'établir un gouvernement sur le large fondement de la liberté civile et religieuse. Mais le trait sévère du crayon prophétique révèle un changement dans cette scène paisible. La bête aux cornes semblable à celle d'un agneau parle d'une voix de dragon et exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence. La prophétie déclare qu'il dira à ceux qui habitent sur la terre de faire une image de la bête, et qu'il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque dans la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre si ce n'est celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom.
Ainsi, le protestantisme suit les traces de la papauté.
C'est à ce moment-là que l'on voit le troisième ange voler au milieu du ciel, proclamant « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur le front ou sur la main, celui-là boira du vin de la colère de Dieu qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. En contraste frappant avec le monde, se dresse le petit groupe qui ne se détournera pas de son allégeance à Dieu. Ce sont eux dont parle Ésaïe, comme réparant la brèche qui avait été faite dans la loi de Dieu, eux qui rebâtissent les anciennes ruines, relevant les fondements de nombreuses générations.
Le plus solennel avertissement et la plus terrible menace jamais adressée aux mortels sont ceux contenus dans le message du troisième ange. Le péché qui attire la colère de Dieu, non tempéré par la miséricorde, doit être d'un caractère des plus odieux. Le monde doit-il être laissé dans les ténèbres quant à la nature de ce péché? Assurément non. Dieu n'agit pas ainsi envers ses créatures. Sa colère ne s'abat jamais sur les péchés d'ignorance. Avant que ses jugements ne s'abattent sur la terre, la lumière concernant ce péché doit être présentée au monde afin que l'homme sache pourquoi ses jugements doivent être infligés et qu'il ait l'occasion d'y échapper.
Le message contenant cet avertissement est le dernier à être proclamé avant la révélation du Fils de l'homme. Les signes qu'il a lui-même donnés annoncent que sa venue est imminente. Depuis près de 40 ans, le message du troisième ange retentit. À l'issue du grand conflit, deux camps se forment. Ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent sa marque, et ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant, qui ont le nom du Père écrit sur leur front. Ce n'est pas une marque visible. Le temps est venu où tous ceux qui ont à cœur le salut de leur âme devraient se demander avec sérieux et solennité « Quel est le sceau de Dieu et quelle est la marque de la bête ? Comment pouvons-nous éviter de la recevoir ?»
Le sceau de Dieu, le gage ou le signe de son autorité, se trouve dans le quatrième commandement. C'est le seul précepte du Décalogue qui désigne Dieu comme le Créateur des cieux et de la terre et qui distingue clairement le vrai Dieu de tous les faux dieux. Tout au long des Écritures, le fait de la puissance créatrice de Dieu est cité comme preuve qu'il est au-dessus de toutes les divinités païennes.
Le sabbat, prescrit par le quatrième commandement, a été institué pour commémorer l'œuvre de la création afin de maintenir les esprits des hommes toujours tournés vers le Dieu véritable et vivant. Si le sabbat avait toujours été observé, il n'y aurait jamais eu d'idolâtre, d'athée ni d'infidèle. L'observance sacrée du jour saint de Dieu aurait conduit les esprits des hommes vers leur Créateur. Les choses de la nature leur auraient rappelé Dieu et elles auraient rendu témoignage de sa puissance et de son amour. Le sabbat du quatrième commandement est le sceau du Dieu vivant. Il désigne Dieu comme le Créateur et est le signe de son autorité légitime sur les êtres qu'il a créés.
Quelle est donc la marque de la bête, si ce n'est le faux sabbat que le monde a accepté au lieu du véritable ?
La déclaration prophétique selon laquelle la papauté devait s'exalter au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré s'est accomplie de manière frappante dans le passage du sabbat du septième au premier jour de la semaine. Partout où le sabbat papal est honoré de préférence au sabbat de Dieu, là l'homme du péché est exalté au-dessus du Créateur du ciel et de la terre.
Ceux qui affirment que le Christ a changé le sabbat contredisent directement ses propres paroles. Dans son sermon sur la montagne, il déclara « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera sera appelé grand dans le royaume des cieux. »
Les catholiques romains reconnaissent que le changement du sabbat a été opéré par leur Église, et ils invoquent précisément ce changement comme preuve de l'autorité suprême de cette Église. Ils déclarent qu'en observant le premier jour de la semaine comme sabbat, les protestants reconnaissent son pouvoir de légiférer en matière divine. L'Église romaine n'a pas renoncé à sa prétention à l'infaillibilité, et lorsque le monde et les églises protestantes acceptent le sabbat apocryphe qu'elle a institué, ils reconnaissent de fait sa prétention. Ils peuvent citer l'autorité des apôtres et des pères pour défendre ce changement, mais le sophisme de leur raisonnement est aisément décelable. Le papiste est assez perspicace pour voir que les protestants s'abusent eux-mêmes, fermant volontairement les yeux sur les faits en cause. À mesure que l'institution dominicale gagne en faveur, il s'en réjouit, assuré qu'elle finira par placer l'ensemble du monde protestant sous la bannière de Rome. Signs of the Times, 1er novembre 1899.